Les voyageuses françaises du 19e. Moi, j'ai trouvé 80 voyageuses françaises. J'adore les livres de voyage et j'ai commencé par me dire, bon, le livre de voyage en France au 19e, c'est quoi? C'est d'abord la grande suprématie du récit littéraire. Chateaubriand, Lamartine, Flaubert, Fromentin, Stendhal, etc. Deuxièmement, c'est la fiction, c'est Jules Verne. Troisièmement, c'est les vrais récits de voyage, des explorateurs, des aventuriers, des navigateurs et tout ça. Et quand vous êtes au bout, cherchez la femme. Il n'y en a pas. Comment se fait-il qu'à condition de vie pratiquement identique, de société très proche, les Anglais ont plein de voyageuses, les Américaines en ont plein. Il y a cette fameuse Ida Pfeiffer qui est autrichienne, qui est probablement la plus grande voyageuse de tous les temps. Alexine Tinné, c'est des femmes de légende littéralement. Elle est hollandaise, donc pas ou peu de françaises dans tout ça, pas jusque-là, il n'y en a pas. Alors c'est quand même étrange que des pays donc proches du nôtre aient des voyageuses, que nous, le récit de voyage a énormément de place dans la culture française. La culture du 19e est une culture, il faut voir ici le nombre de voyages qu'il y a qui s'y rapportent. C'est là que je me suis mise un petit peu sur la piste comme Sherlock Holmes en me disant, alors des endroits comme ça sont précieux, je vous ai sorti quelques livres de voyage qui sont ici. Un petit commentaire sur ce que ça peut être pour moi de trouver ces livres parce que à la BN, il y en a beaucoup. On peut en lire sur Internet. Ils sont tous numérisés. On les regarde à l'écran, on les regarde en microfiche, on les regarde en microfilm. Ça se comprend, ils tombent en ruine. Il n'y a plus d'endroit où on peut avoir ces livres entre les mains. Donc c'est, et cette merveilleuse collection sur laquelle on reviendra du tour du monde. Tout à l'heure, quand bon, il faudra un moment qu'on parle un petit peu. Il y a des voyageuses, comment on les connaît? Parce qu'elles ont fait des récits, n'est-ce pas? Il y en a probablement beaucoup d'autres. Mais là, aujourd'hui, je parle des voyageuses ayant laissé des récits. Il y a aussi que quand elles ont fait un récit, il n'y a pas beaucoup de voies de publication pour elles. Donc, il y en a qui vont publier à compte d'auteur. Il y a des livres où, sur lesquels il est écrit que c'est en vente chez l'auteur. Il y a quand même quelques livres qui sont publiés. Et puis, il y a cette merveilleuse collection du Tour du Monde qui est presque complète ici, qui a les plus grands graveurs de l'époque, Rioux et Gustave Doré et beaucoup d'autres. Maintenant, ce sont des objets de collection. C'était un Saint-Simonien, Charton, les Saint-Simoniens vont avoir beaucoup de place dans cette histoire, qui a lancé cette publication, puisque le 19e siècle, c'est le siècle du début des savoirs, de la pédagogie, etc. Donc il a lancé ça, et ça a apparu entre 1860 et 1914. En tout, il y a 500 récits de voyage. Et sur les 500, il y en a 25 qui sont des récits de femmes. Ça a l'air peu, mais c'est surtout cette collection qui a accueilli ces fameux récits de voyage des voyageuses françaises du 19e. Au 19e, tout le monde bouge. À tel point que je ne sais pas si vous avez entendu cet économiste assez remarquable et très à la mode en ce moment qui s'appelle Daniel Cohen. Il dit que c'est un grand siècle de mondialisation. Et c'est vrai, tout d'un coup je me suis dit, mais c'est vrai. Lui, il donne le chiffre qu'au 19e siècle, une personne sur 10 n'habite pas son pays d'origine. Attention, l'esclavage et la misère n'y sont pas pour rien. C'est pas seulement pour aller chercher des connaissances. Et sur l'Europe, il y a 7 millions d'Européens qui sont en situation d'émigration ailleurs. Donc c'est vraiment un siècle où on bouge. Alors on bouge globalement sur la base suivante. Les idées du siècle des Lumières sont intégrées dans la société. L'accès au savoir est essentiel. Il faut découvrir, voir par soi-même, aller chercher. Il faut remplir les blancs des cartes géographiques, il faut aller voir ailleurs comment on fait. C'est l'époque des cabinets de curiosité aussi, etc. C'est l'expansion territoriale et l'expansion des connaissances. Les deux vont en même temps. Bon, moi je parle, on pourrait dire beaucoup de choses du 19e, mais j'en parle dans le sens de ce qui a un rapport avec mon sujet. Donc c'est ce siècle-là où on part chercher des connaissances, mais où en même temps on est persuadé de détenir la bonne connaissance, les bonnes valeurs, et on va vouloir les transmettre aux autres. La colonisation n'est pas étrangère à cet état d'esprit. C'est cet esprit de pédagogie. Et alors là, les femmes, elles vont vraiment trouver une place là-dedans quand elles vont voyager dans un pays et qu'elles reviennent. Elles vont absolument couvrir minutieusement le spectre de tous les usages, comment les gens sont physiquement, comment ils sont habillés. Je ne veux pas dire que c'est du petit travail féminin, hein, qu'elles ne sont allées que dans les cuisines et dans les offices. Non, pas du tout, elles voient tout ce que voient les hommes, mais en plus elles ont un regard particulièrement aigu, qui est intéressant ethnologiquement sur des sociétés qui, maintenant ont plus ou moins disparu. Je pense qu'elles voient pas du tout comme les hommes, mais en même temps, elles voient pas moins. La question des savoirs donc fait qu'elles vont occuper dans leur récit, elles vont travailler minutieusement tout ce qu'on peut sortir de la visite d'un pays, et ça rend ces livres extrêmement riches, extrêmement denses, et parfois pas faciles à lire quand elles se mettent en tête, par exemple en termes d'archéologie, de nous décrire une tour couverte de sculptures. Alors là, on passe 20 pages là-dessus parce que c'est un travail un peu perdu d'avance, sauf pour les grands écrivains. Mais cette minutie, d'une manière générale, plutôt que d'aller dans le sens de ce que je dis, apporte beaucoup d'intérêt au livre. Alors donc, je reviens sur mon sujet. On part pour conquérir, voir ce qu'il y a ailleurs et en même temps apporter ses propres idées, façonner un petit peu le monde des autres. Donc, en quelque sorte, on pourrait imaginer symboliquement une procession où on aurait devant l'explorateur, le premier, puis derrière les militaires, les diplomates, les fonctionnaires, les missionnaires, les colons, les forçats, les déportés, les commerçants, les scientifiques, les aventuriers, les artistes, etc. Et là, à part les deux premiers, les militaires et les explorateurs, vous pouvez mettre des figures féminines sur toutes les autres catégories que j'ai énumérées. Bon, les missionnaires, on en parlera plus tard, mais là, je crois que tout le monde a une bonne idée de ce que c'est que ces missions qui partent, encore que le niveau de souffrance dans lequel ils vont se trouver peut être... Il y a le récit d'un évangéliste qui s'appelle François Coillard, et ce n'est pas sa femme qui a écrit le récit, c'est lui, mais elle est très présente dans le récit. Alors, il parle non seulement de lui, ils sont en Afrique du Sud, de lui, mais de tous les autres missionnaires qui gravitent autour d'eux, et la mortalité est effrayante. Ce qui leur arrive est absolument terrible. Je dois dire, parce qu'après, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de le dire, que dans cet expatriement, dans ce déplacement, la vie des enfants est très fragile. La mortalité enfantine est très importante chez les colons, chez les missionnaires protestants qui sont en famille. Enfin, dans le déplacement au 19e siècle, il y a beaucoup de dangers pour les adultes. Mais quand j'ai pu trouver des éléments dans les livres comme ça concernant les enfants, c'est eux qui paient le plus contribuent. Alors, les colons, les colons, vous avez mentionné deux fois, on reviendra peut-être dessus, Aurélie Tidjani. Aurélie Tidjani était une bordelaise qui a épousé un musulman, qui était musulman, mais responsable d'une confrérie musulmane qui lui donnait un grand pouvoir religieux. Elle a fait travail de colon en ce sens qu'il avait un énorme domaine qui était en friche. Elle a remonté tout ce domaine, la maison, roseraie, etc. Et elle a pris en main, à la mort du mari, cette confrérie. Elle a joui d'un pouvoir absolument important, d'un pouvoir religieux important, c'est à noter. À la mort du mari, pour continuer à conserver cette place, imaginez-vous qu'elle a épousé son frère, qui lui a permis de garder le même statut. Et puis après, ça se termine mal parce qu'en fait, on reviendra là-dessus, mais tout le monde le sait bien, entre la France et l'Algérie, la fusion des cultures ne s'est jamais faite. Or, elle l'avait faite dans sa vie. Et à la fin de ses jours, elle est partie en France, elle n'a pas pu s'adapter, elle est revenue là-bas et elle n'était plus souhaitée. Donc elle a fini toute seule, sur son domaine en ruine, etc. Elle a au moins consacré plus de 40 ans de sa vie à s'occuper d'un énorme domaine algérien, très loin. Je crois qu'elle avait plusieurs jours de voyage entre je ne sais pas quelle grande ville, entre Alger, voilà. J'ai évoqué tout à l'heure les forçats. Alors il n'y a pas de femme forçat, en tout cas pas qui ait écrit le livre. Mais dans les déportés, on en a une que tout le monde connaît ici. C'est Louise Michel, qui a été déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle n'a pas fait, à proprement parler, un récit de voyage, comme les missionnaires. Ils ne vont pas nous laisser des récits de voyage. Mais il a des journaux, des témoignages dans lesquels on trouve une évocation de ce que ça a été. Donc, Louise Michel, elle est trop connue pour que j'en parle. Mais après, dans mon énumération, il y avait les commerçants. Donc ce qu'on va voir, c'est les femmes partir pour faire du commerce. Alors je vais vous raconter un cas particulier, c'est Madame de Saint-Amand. Le prince Louis-Napoléon promet au mari une charge de consul en Californie. Alors la Californie, ben, c'était la ruée vers l'or, c'est pour ça qu'elle y va. Il y a eu un gros mouvement économique, donc ça a attiré pas mal de monde. Donc elle est partie. Ce qui est intéressant, particulièrement courageux, c'est qu'elle part seule. Le mari est encore à Paris, dans les bureaux, en train d'essayer d'obtenir son poste de consul, qu'elle a déjà pris la route depuis longtemps, avec une montagne de marchandises à vendre là-bas. Alors comme il y en a d'autres, je peux vous dire qu'on emporte tout, il y en a même une qui emporte un billard. On emporte des pianos, on emporte des choses de ce genre. Donc ils partent avec des bagages considérables. Il leur faut un an pour se préparer. On fait les bagages, on embarque sur les bateaux. Pour atteindre la Californie, le canal de Panama n'est pas percé. Donc on passe soit par le Cap Horn, soit par Panama et puis par les terres jusqu'en Californie. Elle, elle va mettre 5 mois. Et une autre qui part par le Cap Horn va mettre 6 mois. Une missionnaire qui part à Wallis et Futuna met 11 mois, à tel point d'ailleurs que c'est un bateau sur lequel il n'y a que des religieux, et bien ils mènent une vie de couvent, complètement, l'heure des prières, les prières, exactement, ils ne sont plus dans le voyage, ils sont exactement comme dans leur institution avant de partir. Forcément, si ça dure un an, il faut bien s'installer dans le voyage. Donc elle part avec son énorme chargement. Quand elle arrive à Panama, ça devient extrêmement dur. D'abord parce qu'elle a ce problème matériel absurde qu'elle a préparé d'énormes bagages. Elle était mal renseignée en pensant qu'elle allait tout faire en bateau. Quand elle voit qu'il faut charger sur des mules, elle est obligée de refaire tous ses paquetages et tout ça. Et après, elle connaît, comme beaucoup d'autres, mais c'est le leitmotiv de ses voyages, un enfer. Elle croise, et c'est pas le quotidien, mais c'est l'ordinaire de ces voyages-là, les tigres, les lions, les panthères, etc. Mais l'animal le plus horrible, celui qui leur pourrit les voyages, c'est la vermine, et c'est les moustiques. En plus, les moustiques leur transmettent des crises de fièvre abominables, certaines en meurent d'ailleurs, etc. Donc, elles passent de Panama en Californie. Et là, elles sont plusieurs, quand elles arrivent aux États-Unis, à avoir cette espèce de choc. Elles partent fières de leur monde, fières de leur culture, sûres d'aller transmettre quelque chose à une sorte de sauvage qui habite loin. Et en fait, toutes les voyageuses de cette époque-là, c'est-à-dire entre 1850 et 1900, quand elles arrivent aux États-Unis, mais que ce soit New York, Washington, la Louisiane ou donc la Californie, qui est encore la Californie des westerns qu'on voit au cinéma, mais elles sont complètement bluffées par cette culture. On voit là très bien dans les récits la montée des deux superpuissances, la Russie, dont on parlera tout à l'heure, et les États-Unis. Et là, elles sont bluffées et tout d'un coup, elles se regardent, parce que souvent, donc, elles vont refaire leur image d'elles au contact des autres, de ce qu'on appelle maintenant l'altérité. Et c'est comme un miroir qui leur fait prendre conscience de ce qu'elles sont. Et les États-Unis les mettent assez mal à l'aise à tel point que certaines vont avoir des relations d'agressivité terribles en disant le pique-pendre des Américains parce qu'en fait elles ont au bout du compte beaucoup de mal à supporter cette nouvelle société. Alors autant elles voient les pays du Caucase ou comme ça comme leur passé, ce qu'on n'est plus et qu'on ne sera plus, donc c'est intéressant à observer. Et là elles sont bien parce qu'en gros elles sont dans une attitude de paternalisme, on ne peut vraiment pas dire maternalisme là. Mais aux États-Unis, elles ne peuvent absolument pas adopter cette attitude. Certaines sont très admiratives et d'autres sont assez mal à l'aise. Ben, on va la laisser là. Il va lui arriver ce qui arrive à d'autres là-bas à San Francisco. Ses affaires réussissent, son commerce marche très bien et puis un incendie détruit tout. Elle remonte un café qui marche très bien et l'incendie redétruit tout une fois de plus. Son mari, entre-temps, est venu la rejoindre et elle rentre. Donc ça, c'était dans le chapitre des aventuriers. Il y a, dans l'ensemble des voyageuses françaises que j'ai trouvées, il y a 3 chercheuses d'or. Ça, je ne la classe pas comme chercheuse d'or, c'est une négociante. C'est une époque aussi où les filles se marient très jeunes. Souvent, elles partent dans les expéditions que je vous parle, elles ont à peine 20 ans, elles sont déjà mariées. Encore une parenthèse, on ne sait pas grand-chose de leur vie, parce que le récit de voyage à l'époque, et d'ailleurs je me demande même si c'est pas un peu comme ça encore, à son modèle, on raconte le voyage, mais on ne dit pas d'où on vient, de quelle ville, si on a un mari, si on a des enfants. Alors comme elles sont très fières de voyager, elles vont jamais parler du mari. Elles parlent en je, J-E, tout du long. Mais on a des indices souvent, on peut savoir s'il y a le mari. Ou on peut avoir de la documentation biographique par ailleurs. Mais elle-même, c'est très frustrant parce qu'on lit le développement détaillé de tout un voyage et on ne sait pas qui nous parle. Enfin, elle ne raconte pas 300 pages de récit de voyage sans qu'on la trouve quelque part dedans. Mais on ne sait pas du tout, on n'a aucun élément biographique sur sa vie, on les trouve ailleurs. Donc quand on trouve des informations ailleurs, on voit que dans l'ensemble, elles sont très très jeunes quand elles parlent. Dans l'ensemble, pas toutes. Sœur Perroton, dont je parlais tout à l'heure, qui est partie à Wallis et Futuna, elle est partie à plus de 50 ans. Donc, à 17 ans, voilà Madame Langlais du Frénois, dont je ne sais pas le prénom, épouse un huissier dans le Bordelais. Ils sont à peine mariés, le mari lui dit « moi, c'est la fortune ou rien ». Et la fortune, c'est l'or, c'est chercher l'or. Alors lui, c'est le Brésil qu'il a en tête, pour son malheur de cette pauvre femme, parce que la Californie est déjà pas drôle, mais plus accueillante que le Brésil. Donc, il vend tout, elle ne peut absolument pas s'opposer à lui, il vend l'étude, il vend tout, et un an après, elle est sur ces fameux bateaux qui mettent 4-5 mois pour atteindre Rio. Bon, à Rio, ils font du commerce, elle est contente, elle dit qu'ils ont, en presque un an, ils ont augmenté leur capital de 10%. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup par rapport aux efforts qu'il fallait faire, mais elle est satisfaite. Lui, non, il veut plus. Alors, il achète une plantation. Pour une plantation, il faut des esclaves. Qu'à cela ne tienne. Elle en parle absolument comme si c'était un commerce comme un autre. Donc ils envoient un associé acheter les esclaves. L'associé est malhonnête, il part avec l'argent et il se retrouve avec rien. Bon, c'est une série de péripéties comme ça qui sont un peu communes aux aventurières. Alors, le mari veut toujours plus, il se fait lui-même courtier en esclave, mais tout ça rapporte pas assez, il veut l'or du Mato Grosso. Donc ils vont faire un voyage de presque 6 mois, horrible, alors encore une fois, les moustiques, la jungle, les animaux, tout, leurs mules crèvent tellement le voyage est horrible, mais il n'y a pas que les mules qui meurent, il y a le mari et les associés, et elle se retrouve à 23 ans toute seule dans le Mato Grosso. Bon, dans des péripéties que je ne vous raconte pas, elle arrive à revenir vers la ville de Bahia. Là, il y a une de ces épidémies qui traverse aussi tous les récits de voyage. Quand ce n'est pas la fièvre jaune, c'est la peste, le choléra, etc. Elle, c'est la fièvre jaune. Elle s'en sort. Et puis, bon, finalement, je passe rapidement, elle se fait rapatrier en France. Alors là, le récit qu'elle fait, c'est un récit finalement plein de fierté. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, et il y en a une autre qui va faire la même chose, s'il y a un article de journal sur elle, ou si elles ont une décoration, ou si elles ont une reconnaissance quelconque, elle l'exhibe à la fin du livre. Je ne crois pas que les hommes fassent ça dans les récits de voyage. Dans toutes les préfaces de leurs livres, elles vont dire « Oh, écoutez, j'écris ce livre parce qu'on m'a poussé, mais alors franchement, je ne suis pas capable, il faut m'excuser. » Alors, il y en a qui disent « c'est un petit travail de dame. » Une autre dit « c'est des petites fleurs séchées, des petits souvenirs. » Il faut qu'elle minimise et qu'elle ramène ça à une activité féminine, familière, dans les catégories où elles auraient dû rester. On ne va pas courir dans le Mato Grosso chercher l'or. On fait sécher des fleurs à la maison. Donc, elles rétablissent un petit peu les choses. Il y a une catégorie de gens sur lesquels je n'ai pratiquement pas d'informations, c'est les précepteurs, les majordomes, tout le personnel de maison qui partent en particulier en Russie. Et la ville de Montbéliard, par exemple, avait des liens très étroits avec la Russie. Ce sont des Montbéliardaises, je ne sais pas, qui étaient tutrices des enfants de Tolstoï, par exemple, parce que Montbéliard, avant d'appartenir à la France, était une ville allemande, protestante en tout cas, où l'éducation était donnée aussi bien aux filles qu'aux garçons. Parce que là, je vous parle de femmes, en gros, qui n'ont pas mis le pied à l'école. Il y avait faut attendre la fin du siècle. Elles ont eu une éducation à la maison comme ça, mais pas de formation, pas de diplôme, pas de... etc. Donc là, à Montbéliard, elles avaient une formation. Un tsar a été marié à une princesse de Montbéliard, Paul Ier. Et ça avait resserré les liens entre les deux villes. Et pendant très longtemps, donc la ville de Montbéliard a envoyé... mais elles n'ont pas, à ma connaissance, elles n'ont pas fait de récit. Donc, bon, je sais qu'elles ont existé, mais je ne sais pas plus. Par contre, dans les artistes, on a des récits importants. Alors, il y en a une que tout le monde connaît, qui a voyagé énormément parce que ça lui rapportait des fortunes, c'est Sarah Bernhardt. Plusieurs fois en Amérique, en Australie, en Amérique du Sud, au Brésil, ça lui rapportait des fortunes colossales. Donc, elle remettait ses finances à jour. Alors, elle n'a pas fait de récit de voyage, mais c'est pareil, dans ses mémoires, dans son journal, elle évoque ses voyages. Quand elle est rentrée, on l'appelait méchamment Sarah Barnum. Donc le 19e, c'est l'époque du cirque, justement. Et elle faisait des voyages qui étaient tellement dans le spectacle que c'est un peu déplaisant. Et ça pouvait entraîner des risques ou des souffrances pour les gens qui étaient auprès d'elle. Par exemple, elle arrive en Louisiane à un moment où il y a des grandes crues, le train s'arrête. Le personnel du train dit que la crue est trop dangereuse, qu'on ne peut pas passer. Elle donne beaucoup d'argent pour qu'on passe et quand ils ont passé, le pont s'est effondré. Donc là, il y a des centaines de gens qui étaient prêts à mourir. Moi, j'aime bien le récit de voyage, mais ce genre de truc, j'aime pas du tout. Quand elle arrive à New York, il y a une baleine qui s'est plus ou moins échouée dans l'entrée dans le port. On lui propose de se montrer en spectacle avec la baleine. Donc cette pauvre baleine a des harpons et on la tire par des harpons. Et Sarah Bernhardt va se présenter devant la baleine. Enfin, vous voyez, moi, ce genre de récit de voyage, c'est pas mon cup of tea. Donc, je l'ai pas mise en avant. De toute façon, elle n'a pas besoin tellement qu'on parle d'elle. Il y a une actrice qui s'appelle Louise Fusi, comme un fusil, qui est partie au début du siècle. Au début du siècle, il y a trois Françaises en Russie qui n'ont pas le même statut. Tout au début, il y a Vigée Lebrun, puis il y a De Staël, Germaine De Staël, et puis Louise Fusi qui est là, elle, du début du siècle jusqu'à l'arrivée de Napoléon. Elle vit très bien, elle est très heureuse. Cette société aristocratique est richissime, folle de fêtes, hiver comme été. Donc elle qui est actrice, elle est bien traitée, elle donne beaucoup de détails là-dessus, elle est très bien chauffée, très bien logée. Mais le chauffage est intéressant. Là encore, les Françaises, elles vont être complètement par terre parce que, bon, les isbas sont chauffées, surchauffées. Mais tout est surchauffé. Les isbas, on le comprend, c'est grand comme ça, il y a 25 personnes dedans. Bon. Mais les palais sont chauffés, ou les demeures même bourgeoises moyennes, dans les couloirs, dans les escaliers, dans les recoins, dans les cagibis, c'est tout chauffé. Alors ça, donc Olympe Audoire arrive en Russie, il fait moins 28. Alors elle s'installe chez une amie, elle prend un bain, elle met son peignoir de mousseline, et a dit, il faisait tellement chaud, il y avait 14 degrés. Donc Louise Fusi est là depuis le début du siècle, et elle adore cette société. Elle part faire une tournée en Crimée, et quand elle revient, elle n'a rien vu venir, mais Napoléon est là. Elle est à peine arrivée que la ville de Moscou se trouve en flammes. Elle est prise là-dedans, et elle n'a plus rien à elle, il n'y a presque plus de gens dans la ville, donc elle est obligée de repartir avec l'armée napoléonienne et elle passe la Bérézina avec les armées de Napoléon. Et elle en fait un récit qui est tout à fait poignant, là encore, la somme de souffrance. Alors elle est là, vous savez que, alors que les pontonniers de Napoléon étaient en train de travailler sur ce pont, le pont s'est écroulé. Donc tous les pontonniers sont morts et tous les gens qui étaient dessus et ceux qui sont restés côté Russie étaient sous le feu des Cosaques. Donc ce moment-là qu'elle a vécu, ces quelques heures-là, elle venait de passer, ont été, j'en parle pas plus longtemps, bon, au début du siècle, il y a des exilés pour raisons politiques, vous les connaissez, c'est Vigée Lebrun et Germaine De Staël qui sont toutes les deux, alors, elles ont traversé l'Europe, mais moi, je ne commence à les considérer que quand elles arrivent en Russie, à cause des contraintes que j'ai données à mon sujet. Et c'est encore une fois la peinture de la société aristocratique russe, francophone, francophile, etc., où elles se sentent extrêmement bien. Il y a les exilés, il y a Louise Michel déportée, et puis dans la propagation des idées socialistes ou autour du socialisme ou du féminisme, etc., on a Suzanne Voilquin comme Saint-Simonienne qui fait un voyage en Égypte. Les Saint-Simoniens ont joué un grand rôle dans le percement du canal de Suez et de Panama. Leur philosophie était basée sur l'idée des échanges, etc. Donc quand elle arrive, elle est accueillie par Ferdinand de Lesseps lui-même, qui est consul à ce moment-là. C'est lui qui l'accueille au consulat. Donc Voilquin, V-O-I-L-Q-U-I-N, Saint-Simonienne, part en Égypte et après elle fera un voyage en Russie où elle sera très malheureuse parce qu'elle voit l'autre Russie, celle du servage, de la misère, etc. C'est vraiment l'autre face du pays et elle ne supporte pas le traitement des esclaves, le knout, les punitions, les choses comme ça. Pour elle, c'est cette année horrible. En Égypte, elle est arrivée au moment où la peste allait décimer entre autres tous les Saint-Simoniens, mais presque toute la ville. Elle est restée, elle va beaucoup témoigner sur la condition de la femme là-bas. Il y a un personnage tout à fait curieux qui s'appelle Louise Bachelet, je crois. C'est une illuminée complète. Elle traverse le Paraguay pour aller rentrer au Brésil dans un phalanstère fourriériste. Ben alors elle, c'est une exaltée totale. Elle ne voit rien que son phalanstère, ses frères, ses sœurs, ces choses comme ça. On n'a absolument aucune information sur le pays. On ne sait pas comment elle a débarqué là-bas. Tout son texte, c'est à genoux confondu d'admiration devant ce phalanstère. Elle n'avait pas quitté le pays, que le phalanstère était par terre d'ailleurs. Mais elle n'y est pour rien. Hein. Après, dans la catégorie féminisme, développement des idées féministes, on a une grande féministe, Hubertine Auclert. Alors, la position féministe d'Hubertine Auclert, c'est de demander le droit de vote d'abord. Et après, par le vote, d'assurer le reste des droits des femmes. Alors que les féministes de l'époque sont dans la démarche contraire. Gratter des droits comme ça et arriver jusqu'au vote. Ce qui fait qu'elle est seule à peu près sur ses positions. Elles vont être beaucoup dans la provocation. Vous avez appris comme moi l'histoire du suffrage universel accordé en 1948. C'est universel, mais ça ne concerne pas les femmes. Elle, justement, elle bute sur le terme universel. Et un jour d'élection, elle va détruire les urnes, ce qui l'amène tout droit en prison. Elle ne veut pas payer ses impôts parce qu'elle ne fait pas partie des gens qui décident du budget de l'État. Elle ne veut pas remplir sa fiche de recensement, puisque comme femme, les femmes, il faut comprendre, les femmes n'ont aucun droit civique. Elles n'ont même pas de droit sur leur propre fortune. Donc c'est dans ce contexte que Hubertine Auclert va faire des scandales aussi dans les cérémonies de mariage quand on lit le passage du Code civil concernant l'obéissance de sa femme au mari, etc. Et alors, elle va voyager en Algérie, mais ce n'est pas un voyage qu'elle fait de son plein gré. Son terrain, c'est Paris. C'est là qu'elle milite, c'est là qu'elle a ses assises. Et elle s'est mariée à un juge sur les mêmes positions qu'elle, un camarade en quelque sorte, et lui est nommé en Algérie. Et là, elle part en Algérie. Et là, je vais commencer un petit peu la question du colonialisme. Sur le colonialisme, il y a beaucoup de voyageuses qui vont voyager, et en Afrique du Nord en particulier. Alors, le colonialisme a tout à voir dans ces voyages-là, parce qu'elles y vont soit parce qu'elles accompagnent un mari, ou qu'elles vont rendre visite à un gendre militaire de la garnison, ou quelque chose comme ça, soit elles vont faire du tourisme dans les terres nouvellement françaises. Hubertine Auclert, lui, elle y va en suivant son mari. En deux mots, voilà ce qui se passe. Il y a des voyageuses, c'est les idées de leur temps qu'on va retrouver partagées entre les unes et les autres. Elles sont toute une série à voyager en Algérie sur des positions idéologiques totalement sommaires. C'est formidable, c'est à nous, on est bien, on est les propriétaires de ce pays, sans se poser la moindre question. Donc, elles, c'est des odes au drapeau, à la nation française, à la grande nation, etc. Elles ne sont pas du tout intéressantes, d'autant que la plupart d'entre elles ont une plume minable. Elles écrivent vraiment... Quand elles font les préfaces en disant « Oh, on m'a poussé à écrire, mais je ne suis pas bonne, je ne vais pas y arriver », c'est vrai. C'est des livres tout à fait ennuyeux à lire, on n'apprend rien. Alors, elles ont des grands trucs de poésie. Alors, il y en a une, elle ne va jamais dire l'Algérie, parce que le mot qui l'a fait rêver, c'est « Numidie ». Alors, elle parle de la Numidie, c'est la désignation romaine, mais je crois que ça ne couvre même pas toute l'Algérie. Alors, elle a appris la Numidie à l'école, alors elle voyage en Numidie. C'est en Numidie, donc, que le colonialisme est formidable, vous voyez. Alors, par contre, il y a quelques voyageuses tout à fait exceptionnelles pour leur réflexion sur la colonisation. Et il y en a une qui s'appelle Pauline de Noirefontaine, que vous n'avez pas là et qu'on peut lire parce que c'est numérisé sur Internet, que j'ai trouvé assez remarquable, des femmes qui s'informent, qui réfléchissent, qui se demandent ce que la France fait là. Alors elle, Pauline de Noirefontaine, est assez pessimiste, elle dit on ne s'en sortira pas, on a soumis les Arabes mais on ne les a pas vaincus, on va dépenser tout l'argent qu'on pourra dans ce pays et on ne s'en sortira jamais, on est dans une très mauvaise situation dans ce pays. c'est celle qui va aller en fait le plus loin. Parce que les autres, la colonisation c'est normal. Mais elle voit, comme par exemple Hubertine Auclair, que la colonisation ça ne marche pas. Et c'est à partir de là qu'elles se mettent en question, mais sans remettre en cause le substrat. Elles font partie d'un pays où tout le monde est colonialiste à cette époque-là. Elles ne se rendent pas compte, puisque c'est une colonie, il va y avoir forcément spoliation. Elles veulent une égalité, donc elles disent, parce que l'époque n'est pas encore à ça, il faut appliquer les lois de la République. Et une fois qu'on appliquera les lois de la République sur la colonie, il n'y aura plus aucun problème. Ça, c'est les plus progressistes, mais c'est quand même terriblement progressiste par rapport à la pensée de beaucoup d'autres à ce moment-là. Alors, elles se renseignent et par exemple, on apprend, moi je ne l'avais pas appris ailleurs, que la condition des colons, les colons sont très très durs avec les Arabes, ça c'est sûr, mais eux-mêmes, les colons, sont dans une situation très difficile. Ils doivent défricher des terres qui sont insalubres, ils ont beaucoup d'impôts à payer eux-mêmes. Ils ont des espèces de contrats très courts pour défriger, pour mettre en culture, etc. Et on voit qu'en fait, beaucoup de colons sont des gens qui ont tout juste de quoi vivre. Alors qu'on peut avoir l'image des grands domaines, etc. Celles dont je parlais tout à l'heure, qui sont si fières de la France. Et pourtant, il y en a qui arrivent juste après Bugeaud, quand Bugeaud a fait des massacres en Kabylie, par exemple, où elles disent, bon, mais une fois qu'ils auront oublié ce qu'on leur a fait, ils seront très contents qu'on soit venu leur apporter la culture, etc. Hubertine Auclair, au premier chef, et Pauline de Noirefontaine, je ne sais pas si vous avez le courage d'aller voir sur Internet, moi je l'ai trouvée remarquablement intéressante. Comme vous voyez, moi je peux parler une semaine encore.
Vous avez publié, oui, voilà.
Oui, oui. Il sort le 10 mars 2007 chez Payot et s'appellera Le roman des voyageuses françaises. Ce n'est pas un roman. Mais je suppose que ce que je viens de vous raconter vous a montré à quel point c'est romanesque quand même cette histoire. Je l'ai oublié dans le. Là, je vous ai énuméré, bien sûr, je l'ai rajouté là. Mais alors, Flora Tristan, son voyage au Pérou est vraiment casse-pied. On voit très bien quelque chose. C'est un premier livre qu'elle va écrire où elle va exercer sa plume à être agressive. Mais elle l'exerce contre sa famille, contre les Péruviens, contre tout ça. Et je ne mets pas l'accent sur les voyageuses qui sont des femmes très connues par ailleurs. Comme Flora Tristan, c'est pas mon sujet. Flora Tristan n'est pas allée dans des circonstances de militantisme. Elle est allée au Pérou essayer de récupérer un héritage.
Excusez-moi, est-ce que vous avez trouvé des choses à la bibliothèque Marguerite Durand, vous avez travaillé?
Oui, la bibliothèque Marguerite Durand, l'ensemble des livres. Donc comme je vous disais, il y a à peu près 80 voyageuses et une centaine de livres. La majorité sont à la Bibliothèque nationale. Marguerite Durand a quelques livres, comme ici, qu'on peut prendre entre les mains, ce qui est un vrai plaisir. Mais il y a quelque chose chez Marguerite Durand qui est très intéressant pour cette époque, c'est les petits dossiers avec les coupures de presse, et voilà, et des biographies et des choses comme ça qui sont très bien faites. Vous aurez compris que je ne vous ai pas parlé de la moitié du sujet, il reste encore plein de voyageuses. Oui, Léonie Donnet est un personnage, c'est une femme qui est partie à l'âge de 19 ans dans une expédition au Spitzberg. Vous voyez où c'est Spitzberg, c'est des terres près du Grand Nord, près du pôle. Au pôle Nord, pratiquement.
La 80e parallèle.
Et quand elle est rentrée, elle et Victor Hugo se sont engagés dans une relation amoureuse très passionnée. Et le mari, parce qu'elle était mariée, ça c'était un des points que je voulais voir avec vous, combien de ces voyageuses sont des femmes qui ont été mariées jeunes, qui ne se sont pas entendues avec leur mari. En général, le mari a commencé par piller leur fortune. Elles n'ont plus rien et elles n'ont pas le droit au divorce. Depuis la Restauration et jusqu'en 1800, fin des années 1870, elles peuvent être séparées du mari, mais la séparation les oblige quand même à la fidélité et ne leur donne aucun droit. Donc un certain nombre de ces femmes vont se trouver avec des enfants et sans absolument aucun soutien dans la société. Ce qui est intéressant, comme Flora Tristan par exemple, qui écrit des choses très explicites là-dessus, et Olympe Audouard, c'est qu'elles vont avoir un problème de nom. Elles ne veulent plus le nom du mari, elles n'ont pas le droit de nom de jeune fille parce qu'elles auront l'air d'être des mères célibataires. Elles ont un problème d'identité concret, de chaque jour, etc. Comment se faire appeler si elles sont appelées mademoiselle avec des enfants, ça ne va pas, etc. Donc ces femmes-là, ce qui va souvent les accueillir et leur permettre de vivre parce que le 19e siècle, pour la condition féminine, est un siècle absolument atroce, parce que les femmes sont propulsées sur le marché du travail. C'est là qu'il y a toutes les bonnes, les servantes, les etc., toutes ces filles qui sont exploitées, qui se retrouvent filles mères dans des sociétés qui ne veulent pas de ça. Donc, ces femmes-là, il y a Léonie Daunet, Olympe Audouard, Juliette Lambert, Flora Tristan, qui se trouvent dans ces cas-là, Juliette Lambert, oui. Le journalisme va leur permettre de vivre, de nourrir les enfants, d'avoir une place sociale importante. Donc, partant de là, des gens comme Benson, comme Olympe Audouard, vont voyager comme journalistes. Vont aller voir ce qui se passe en Russie, aller en Amérique du Nord pour faire des articles et des ouvrages là-dessus. C'est encore une toute autre catégorie. Les femmes journalistes françaises qui voyagent pour faire des ouvrages, s'informer et faire des ouvrages, c'est Benson, Juliette Adam, Audouard et Léonie Daunet. Je suis allée au musée de la marine, je suis allée beaucoup chercher dans la catégorie navigation. Alors j'ai vu mentionner une ou deux femmes pirates, mais qui n'étaient pas sur ma période. J'ai pas trouvé de femmes navigateurs. Oui, il y a eu des grands touristes aussi. Il y en a un qui s'appelle Louise Bourbonneau, qui, mettons, en 1886, a dit, bon, c'est l'Amérique du Nord. En 87, elle a dit, c'est l'Amérique du Sud. Elle partait pratiquement le même jour de l'année suivante, entre le 15 et 20 juillet. Alors elle est fantastique parce qu'elle titre son voyage en Chine et au Japon. Elle arrive au Japon, elle fait comme d'habitude, elle file savoir les heures des bateaux pour l'Europe. Il y a un bateau qui part dans la soirée, elle prend un train, elle va visiter Tokyo, elle revient 2 heures après, elle s'embarque sur son bateau, mais elle titre quand même son ouvrage. Voilà, c'est comme celles qui vont à Constantinople et qui traversent et à 10 voyages en Asie, alors qu'en fait, elles n'ont fait que traverser le Bosphore. Oui, alors il y a cette Madame Bourbonneau qui va aux Antilles. Ah oui, il y a Adèle Homère de L, Homère, H-O-2-M-E-2-L-H-E-2-L, un nom étrange, qui a son dernier livre qui s'appelle « La vie créole ». Alors, celles qui partent au Brésil ou en Argentine font escale dans les Antilles. Et là, il y a souvent le même récit de chargement des bateaux par les esclaves, souvent les femmes, la nuit, à la lumière des torches, des scènes absolument dantesques. Pseudonymes ? Oh là là, les pseudonymes, alors elles en ont toutes. Et pour se faire reconnaître, justement, elles vont s'appeler Louis Régis, Paul Auberive. Elles prennent comme par hasard des noms d'hommes. Il y aurait un livre à écrire sur les femmes et les pseudonymes. Il y en a qui ont un pseudonyme pour faire la sculpture, un autre pour écrire, un autre pour etc. Charles, Mademoiselle de Var, qui est allée au Liban, voyage au Mont Liban.
Et en plus, elle n'est pas allée. Elle a copié. Le voyage de
Quénard
de
Saucy. Ah oui,
c'est moi qui l'ai découvert.
Ah mais ça, il faut vraiment parler plus longuement. J'ai encore le temps de l'ajouter en rendant à César. Ah oui, elle a copié. Il y en a plusieurs que je soupçonne. Je vais garder ça pour moi, mais il y en a plusieurs que je soupçonne d'avoir copié. Ah oui. Voilà.
Merci beaucoup.